vais pas dire grand-chose en introduction parce qu'on est déjà hyper en retard. Mais de toute façon, si on parlait de mauvais genre, on était obligé de parler de drogue. Donc, on va ouvrir tout de suite avec le professeur Nouvel, qui est à la fois professeur en biologie et en philosophie.
Alors, je suis professeur en philosophie, mais j'ai une formation de biologiste. En effet, j'ai fait une thèse de biologie. Mais mon activité maintenant, c'est la philosophie.
Voilà. Et donc, qui va nous parler un petit peu des psychotropes et de la manière dont, enfin, les psychotropes. Est-ce que non, j'ai pas envie de me lancer. D'accord. Je vais vous laisser la parole tout de suite. Alors.
D'accord.
On en parlera après.
Alors, j'ai prévu en fait un PowerPoint et l'idée que j'avais, c'était de vous parler de mon dernier livre qui s'intitule, le PowerPoint qui sort, qui s'intitule Histoire des amphétamines. Et les amphétamines sont les premiers psychotropes de synthèse. Il faudrait peut-être que je prenne le truc pour passer les diapositives. Donc, je vais vous parler de choses qui sont dans ce bouquin publié il y a un peu plus d'un an maintenant au PUF sous le titre « Histoire des amphétamines ». La première synthèse d'amphétamines, je vais prendre mes lunettes. La première synthèse de cette molécule est réalisée par un chimiste. C'est un pur chimiste, il ne s'occupe pas du tout de physiologie, pas du tout de psychiatrie. Il s'appelle Lazar Idelano, il est né en 1861, et la première synthèse, donc, il la réalise en 1887 à Berlin. Et comme il est chimiste, comme je le disais à l'instant, il ne fait pas de caractérisation physiologique et pharmacologique de la molécule. Il publie néanmoins sa méthode de synthèse. C'est une époque où le fait de réaliser une molécule constitue en soi un progrès, et même si cette molécule ne sert à rien d'identifier, en tout cas à ce moment-là, eh bien, ça constitue un élément à publier, et donc c'est la première synthèse d'amphétamine. C'est un hasard, mais c'est un hasard assez remarquable. 1887 est aussi l'année de la publication d'un livre célèbre dont tout le monde a entendu parler d'une façon ou d'une autre. Ce livre, c'est le livre de Robert Louis Stevenson qui s'intitule « L'étrange histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde ». Alors, vous vous souvenez peut-être que dans cette étrange histoire, le docteur Jekyll synthétise un produit qu'il absorbe ensuite, et ce produit le transforme en une forme qui est suffisamment différente de lui pour qu'il lui donne un autre nom, et cet autre nom, donc, c'est Mr. Hyde. Mr. Hyde, c'est l'homme qui était caché dans le docteur Jekyll et qui vient apparaître sous l'effet de la substance. Alors, ce qu'on peut remarquer sur cet écrit, c'est que d'abord, il a été rédigé par l'auteur, par Stevenson, lui-même sous l'effet de substances psychotropes. Cette substance, ce n'était pas les amphétamines, puisque, comme je vous l'ai dit, elles sont certes synthétisées pour la première fois la même année, mais pas du tout caractérisées à ce moment-là. Ce psychotrope, c'était la cocaïne. Et comme vous le savez sans doute, la cocaïne et l'amphétamine ont un profil pharmacologique assez proche l'un de l'autre. C'est écrit sous cocaïne et c'est important de le noter parce que ce que décrit Stevenson comme transformation du personnage de Jekyll, la transformation donc en Mr. Hyde, se rapproche en fait et constitue la première description d'une modification de personnalité sous l'effet de stimulants. Et en fait, ce qu'il décrit sous la forme d'une fiction, c'est ce qu'il ressent lui-même, ce qu'il éprouve lui-même avec ses essais de cocaïne. Par ailleurs, ça lui a permis de réaliser ce livre très rapidement. Il l'a écrit, dit-on, en 6 jours, et même 2 fois 6 jours, puisqu'une première... Une première rédaction n'avait pas l'agrément de sa femme. Il l'a donc jeté pour en faire une seconde, de nouveau en 6 jours. Et il a, de cette manière, abouti à ce livre qu'on connaît donc soit directement. Je crois que maintenant, il y a de moins en moins de gens qui le lisent directement, mais tout le monde connaît l'histoire, la narration qui est présente dans ce livre. Une autre influence qu'on peut noter, c'est la popularité à l'époque où Stevenson écrit ce livre, en 1887, des cas de double personnalité qui ont été décrits pour la première fois une dizaine d'années plus tôt par Eugène Hazan, et notamment le cas de Phélida X. Phélida X est une personne qui passe d'un état triste, qui est son état normal, enfin, que Eugène Hazan appelle l'état normal, à un état joyeux après s'être endormie quelques minutes. Et puis, de nouveau, elle s'endort et elle redevient triste. Donc, elle a un changement d'humeur tellement complet que ça amène le docteur Hazan à parler de changement de personnalité. Et vous avez, si vous combinez ces deux éléments, l'élément de la cocaïne d'une part, l'élément de la double personnalité d'autre part, eh bien vous avez les ingrédients de l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Alors, pour aller un petit peu vite dans l'histoire des psychotropes, je voudrais m'arrêter à la figure de Louis Lewin. Certains d'entre vous savent peut-être que c'est le premier à proposer une classification de l'ensemble des psychotropes connus à son époque. Cette classification est proposée en 1924, donc un peu plus de 30 ans après les événements que j'ai brièvement évoqués à l'instant. Dans ce livre qui s'intitule Fantastica, Lewin distingue 5 grandes catégories de psychotropes et il écrit ceci à la fin de son introduction. En matière de psychotropes, la chimie, il pense à la chimie organique, n'est jamais parvenue à approcher les productions de la nature. En réalité, il a sans doute regretté quelques années plus tard d'avoir écrit cette phrase, puisque 3 ans plus tard, en 1927, va être cette fois découverte la première molécule psychotrope de synthèse. Et cette première molécule psychotrope de synthèse, ça n'est autre que celle qui a été synthétisée pour la première fois en 1887, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'amphétamine. Et Delano lui donnait un autre nom, il l'appelait phénisopropamine. Si on regarde la molécule, je n'ai pas le temps de le faire là, mais on s'aperçoit que c'est un autre nom, phénylisopropylamine, c'est un autre nom possible pour la même molécule. En 1927, donc, à Los Angeles, cette fois, Gordon Hales, qui est un chimiste lui aussi, va découvrir l'amphétamine, c'est-à-dire qu'il va suivre le même protocole expérimental que Delano. Son but n'est pas de produire une molécule, la molécule des Delano, son but c'est de produire de l'éphédrine. L'éphédrine est un produit qui est de plus en plus utilisé à l'époque, notamment dans les cas d'allergie, et le laboratoire dans lequel Hales travaille est un laboratoire spécialisé dans l'allergie, et on souhaite donc trouver une voie de synthèse pour produire une molécule naturelle. Cette molécule, donc, c'est l'éphédrine. Alors, l'éphédrine se trouve dans une petite plante, une plante qui est très utilisée par la médecine chinoise depuis des millénaires. Cette petite plante s'appelle le mawang. Et en 1885, un chimiste a caractérisé le produit actif de cette plante, et donc il l'a nommée éphédrine. Alors voici l'éphédrine, voici la molécule d'éphédrine, et c'est la molécule donc que Gordon Hales essaye de synthétiser par voie chimique. Et voici son raisonnement. Il se dit, eh bien, ce que je veux obtenir, c'est l'éphédrine que vous voyez ici sur la droite. Et je sais obtenir, en suivant la description qu'en fait I. Delano, la phénisopropamine. La phénisopropamine, c'est, comme je disais tout à l'heure, ce qu'aujourd'hui on appelle l'amphétamine alpha-phényl-isopropylamine. Gordon Hallès se dit, je vais d'abord synthétiser cette molécule, donc suivre le protocole des Delano, et ensuite il me restera à ajouter un simple groupe hydroxyle sur l'un des carbones, et puis un groupe méthyle sur l'atome d'azote, et j'aurai obtenu de cette façon l'éphédrine. Et il arrive effectivement sans difficulté à synthétiser le produit qui est censé être un intermédiaire de synthèse, la phénisopropamine, mais il ne parvient pas à réaliser les deux étapes qu'il se proposait de faire par la suite. Et le résultat, c'est qu'il se trouve avec un produit dont il ne voit pas immédiatement l'utilité et eh bien, il l'absorbe, ce produit. Il le mange et il s'aperçoit que ça produit des effets tout à fait remarquables. Immédiatement, il s'aperçoit qu'il est tombé sur une molécule qui pourrait être intéressante à bien des points de vue. D'abord, au point de vue de son propre travail, puisqu'il va l'utiliser, ce produit, pour démultiplier sa puissance de travail. Alors, c'est le côté qu'on pourrait appeler Dr. Jekyll de Gordon Hallès. Il fait, et c'est lui qui forgera cette expression, il fait des expériences en double clairvoyance. C'est une allusion, bien sûr, aux expériences en double aveugle. Lui, dit-il, fait des expériences en double clairvoyance puisqu'il sait pertinemment quel est le produit qu'il absorbe, puisque c'est lui qui l'a synthétisé, et que celui qui fait l'expérience le sait aussi, puisque c'est la même personne. Il expérimente sur lui-même. Mais Gordon Hallès, peut-être stimulé d'ailleurs par les amphétamines qu'il absorbe à ce moment-là de façon assez régulière, se présente aussi comme un businessman avisé et il va proposer, d'abord il va mettre un brevet sur le produit, sur le produit qu'il a synthétisé, donc alpha-méthylphényléthylamine, qui sera bientôt qu'on abrégera en amphétamine. Il met un brevet sur la molécule et il vend ce brevet à la firme Smith, Klein & French, qui est l'ancêtre de GlaxoSmithKline, une des grandes sociétés pharmaceutiques qui existe encore aujourd'hui. Et avec ce produit, la société Smith, Klein & French réalisera vraisemblablement l'un des plus importants profits jamais réalisés avec un médicament. La première forme sous laquelle le produit, l'amphétamine, est commercialisé, c'est la forme que vous voyez sur cette diapositive. Et le nom commercial, c'est la benzédrine. Donc, c'est en 1932 que la benzédrine est commercialisée sous forme d'inhalateur. Le but est de permettre aux personnes qui sont enrhumées, en fait, de se dégager les bronches grâce à ce produit. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'on trouvera une forme en comprimé et qui permettra donc une absorption par voie orale. En réalité, l'absorption par voie orale a commencé bien avant que le produit soit mis sur le marché sous forme de comprimé, parce que les gens se sont aperçus qu'en ouvrant l'inhalateur, on pouvait récupérer ce qui est à l'intérieur de l'étui et on pouvait l'absorber d'une autre façon. Le jazzman Charlie Parker, notamment, a pris cette habitude et avant ses concerts, eh bien, il trempe dans son café un peu de benzédrine, donc le contenu de l'inhalateur, pour l'absorber ensuite directement. On peut remarquer que 1932, c'est l'année de la publication du livre de Aldous Huxley, bien connu, le livre qui s'intitule « Brave New World » en anglais, « Le meilleur des mondes » en français. Dans ce livre, il est question, vous vous en souvenez sans doute, d'une molécule qui permet de donner aux individus qui la consomment un sentiment de bien-être. Cette molécule s'appelle le soma. Et donc, dans une fiction, là encore, on trouve évoqué, et vous savez que cette fiction s'intéresse surtout aux conséquences sociales et politiques de cet usage, on trouve évoqué donc quelque chose qui se produit à la même époque. La benzédrine va constituer le premier antidépresseur. On date souvent le premier antidépresseur des années 50. En réalité, ça a commencé bien avant. Ça a commencé donc dans les années 30 avec la benzédrine, premier antidépresseur en plus de synthèse qui est obtenu par synthèse chimique. Et c'est le psychiatre Abraham Meyerson qui est le premier à avoir préconisé l'emploi de benzédrine pour la dépression. Vous voyez ici, sur cette publicité qui a été réalisée dans les années 30, une image dans laquelle vous avez en arrière-fond le visage déprimé d'une mère au foyer, et puis au premier plan, eh bien, elle est dans la même situation, mais il y a une différence, c'est qu'elle est contente. Cette image vous rappelle peut-être celle que j'ai présentée rapidement sans la commenter tout à l'heure, du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Vous aviez également le Dr Jekyll au premier plan et au second plan. Les plans sont inversés puisque l'effet de la molécule se trouve rejeté cette fois, enfin l'effet visible de la molécule se trouve rejeté au second plan. Au second plan, donc, vous aviez Mr Hyde, comme vous les trouvez tous les deux représentés, ces deux figures, dans un très grand nombre d'illustrations de la fable de Stevenson. Je vais passer rapidement sur Meyerson, mais c'est une œuvre tout à fait intéressante. Il s'est intéressé depuis bien longtemps avant l'apparition de la benzédrine au cas de ce qu'on appelle aujourd'hui de dépression. Et il l'a fait dans un livre qui s'appelle « The Nervous Housewife », notamment, publié en 1920. Donc, la femme au foyer est nerveuse, mais nerveuse au sens de la neurasthénie. Et il cherche, dès que les amphétamines apparaissent, à élaborer un modèle d'action des amphétamines. Et il s'appuie sur une notion qu'il va puiser chez un psychologue français bien connu, qui est Théodule Ribaud. Cette notion, c'est la notion d'anhédonie. Et il dit, finalement, ce dont souffrent les individus qui sont déprimés, c'est d'anhédonie, et donc d'incapacité à éprouver du plaisir. Et ce que font les amphétamines, c'est de reproduire chimiquement la capacité à éprouver du plaisir. Bon, mais je reviendrai sur ces éléments, si vous le souhaitez, tout à l'heure dans la discussion. Je passe à l'utilisation qui se répand à la fin des années 30 et surtout dans les années qui vont dans la décennie qui va suivre, notamment dans la période du Second Conflit mondial, pendant donc la Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre, pourrait-on dire, on le mentionne pas assez souvent, à mon avis, qui est réalisée entièrement sous amphétamine, des deux côtés, aussi bien du côté des troupes de l'Axe que du côté des alliés. Les deux parties utilisent néanmoins des molécules légèrement différentes. Du côté des alliés, la molécule qui est utilisée, c'est l'amphétamine princeps, celle qui a été synthétisée par Gordon Hales et plutôt par Edelano. Pour ce qui est des troupes de l'Axe, pour des raisons qui seraient éventuellement intéressantes d'élucider, mais enfin des raisons historiques, disons, eh bien, on utilise une molécule qui est très proche, qui est la méthamphétamine, et qui se distingue de la première par le fait qu'elle possède un groupe méthyle en plus sur l'atome d'azote. Il n'y a pas d'autre différence, et du point de vue de l'effet pharmacologique, cet effet est très proche. En 1944, donc vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, William Bett, un psychiatre, lance dans un article l'ensemble des indications pour lesquelles on prescrit de la benzédrine, et il en trouve 39. C'est vous dire le succès qu'a pu avoir cette thérapeutique: narcolepsie, dépression, je viens d'en parler, maladie de Parkinson, urticaire, mal de mer, fatigue, difficulté de concentration, convalescence, etc., etc. Après la guerre, étant donné l'utilisation qui a été faite de la molécule les stocks sont importants et on voit ressortir la mère au foyer, dotée cette fois de l'appareil qui marque évidemment son entrée dans la modernité, l'aspirateur, avec aussi une nuance qui est que on a maintenant à l'intérieur du produit qui était la benzédrine réalisé une sophistication supplémentaire. On sépare les deux énantiomères, puisqu'il y a en fait deux énantiomères. Là, il faudrait rentrer dans les détails chimiques pour voir en quoi il y a une différence chimique entre les deux. Mais disons, je vous indique rapidement que l'un des énantiomères est beaucoup plus actif que l'autre, beaucoup plus puissant que l'autre. Cet énantiomère, on l'appelle encore aujourd'hui la dexédrine pour amphétamine dextrogyre, donc D-amphétamine. Et aujourd'hui encore, c'est le plus puissant des stimulants connus. On le trouve, ce stimulant, dans les capsules Apollo, par exemple, à l'époque où elles existaient. On les trouve dans les navettes spatiales. On les trouve dans toutes, et bien entendu, dans les paquetages des soldats et aussi dans l'armée de l'air américaine encore donc aujourd'hui. Quelques utilisateurs notoires d'amphétamine, bon, je mentionne Kennedy, Sartre, Philip Kendrick et Elvis Presley. Et puis, bien entendu, très vite, on utilise les amphétamines pour augmenter ses performances sportives. Et ce qui est frappant à l'époque, puisque je pense qu'on aura l'occasion de parler des questions d'addiction, ce qui est frappant lorsqu'on fait un tour d'horizon de la littérature de l'époque sur les amphétamines, c'est le fait que la question de l'addiction est très peu mentionnée. Et quand elle l'est, c'est toujours pour minimiser l'addiction. Et ceci va durer jusqu'au milieu des années 50. C'est-à-dire que depuis l'apparition des amphétamines sur le marché américain d'abord en 1932 jusqu'en 1955 à peu près, on ne parle pas d'addiction. Et si on en parle, donc pour les amphétamines, si on en parle, c'est pour dire bah oui, mais c'est très rare, c'est très exceptionnel. Et quand il y a des cas d'addiction, ça vient d'autre chose. C'est-à-dire que la personne était prédisposée par un fond génétique, sans doute, qui faisait qu'elle recevait le produit d'une façon qui lui faisait déclencher ensuite de l'addiction. On commence quand même à réaliser un certain nombre de tests sur l'effet biologique de l'amphétamine, et notamment ce test qui est particulièrement impressionnant, je trouve, c'est le test sur les araignées. On fournit aux araignées des amphétamines et puis d'autres psychotropes, marijuana et caféine, et vous voyez l'effet sur la production de la toile de l'araignée. Et ce que je voudrais discuter maintenant, c'est la façon dont, après cet engouement, cette euphorie provoquée par l'apparition de ce nouveau produit, la façon donc dont on arrive à une interdiction du même produit. Cette interdiction va apparaître non pas en 1961, mais 10 ans plus tard, en 1971, mais je mentionne ici la date de 1961, parce que c'est la date de la signature de la première convention dite unique sur les stupéfiants, c'est-à-dire c'est une convention internationale qui oblige les États signataires à prendre des mesures contre des substances qu'on appelle des stupéfiants. Et dans les stupéfiants, il n'y a pas les amphétamines. En fait, il n'y a aucune molécule de synthèse dans la liste des stupéfiants qui figure dans cette convention. 10 ans plus tard, donc, comme je l'évoquais à l'instant, les mêmes États travailleront à une seconde convention qui s'appelle aujourd'hui la Convention unique sur les psychotropes. Vous avez donc deux conventions, l'une qui porte sur les stupéfiants qui, en gros, couvrent les stupéfiants, les produits naturels, les produits qu'on trouve dans les plantes, et l'autre qui couvre les produits de synthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 61 et 71? Qu'est-ce qui fait qu'on a pensé dans un premier temps qu'il n'était pas nécessaire d'interdire les amphétamines et les psychotropes de synthèse, et que finalement, en 1971, on s'y est résolu. Alors, les raisons d'écarter les amphétamines d'une régulation en 1961 sont essentiellement liées au fait que, avec les plantes, on ne peut pas, et c'est l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique qui explique, qui développe et qui soutient ces arguments, on ne peut pas avoir une idée précise du dosage de la molécule active. Par contre, avec les amphétamines, étant donné qu'on a affaire à une préparation synthétique, étant donné aussi qu'on contrôle la production, eh bien là, on a une fiabilité sur le produit réalisé qui est bien supérieure. Et comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, ce qui est frappant donc lorsqu'on regarde les publications sur ces psychotropes de synthèse pendant cette période, là en 1966, c'est donc au milieu de la période, juste entre 1961, la Convention unique sur les stupéfiants et celle sur les psychotropes, eh bien, il est très peu question d'addiction. Sauf, il y a quand même une exception, sauf ce livre qui s'intitule « The Amphetamine, Toxicity and Addiction » donc de Oriana Kallan. Et c'est le premier livre en anglais qui mentionne de façon sérieuse le problème de l'addiction avec des amphétamines. Il y a aussi un autre événement important, c'est l'utilisation devenue généralisée d'amphétamines dans certains quartiers, notamment à San Francisco, dans le quartier 8 Ashbury, qui devient ce qui est connu à l'époque sous le nom de capitale du speed. On a tendance à décrire le San Francisco des années 60 essentiellement sous l'angle du temps des hippies. En réalité, il ne faut pas oublier qu'il y avait au moins deux formes ou deux philosophies qui étaient développées à cette époque-là et à cet endroit-là. Bien sûr, il y a les hippies qui sont des consommateurs de cannabis, de LSD, de mescaline, donc des drogues qui sont plutôt reposantes et qui stimule la rêverie, mais de l'autre côté, il y a les utilisateurs d'amphétamines, notamment les Hells Angels, qui, eux, sont très opposés au type de psychologie qu'induit le LSD, le cannabis et d'autres produits qu'ils considèrent comme tout à fait contraires à leur façon de voir le monde à eux. Donc il y a des modes de produits psychotropes, un peu comme il y a des modes vestimentaires. Et ces deux modes se rencontrent à ce moment-là au même endroit. Et on peut imaginer que la rencontre n'est pas toujours pacifique. En fait, il y a beaucoup de friction entre les deux groupes. Et les descriptions qu'on peut avoir du quartier dont je parlais, Ashbury District, dans les années 60, notamment en 67, sont franchement apocalyptiques. Il y a par exemple des gens qui vendent des armes dans les rues et qui font essayer le matériel qu'ils vendent par les acheteurs sur des cibles mouvantes, des vélos, des taxis qui passent, etc. Bon, on peut comprendre qu'après ça, on ait pensé qu'une régulation était importante. Une des choses qu'on peut remarquer sur cet exemple-là, je crois que c'est l'exemple sur lequel c'est le plus évident, le plus flagrant, c'est que lorsqu'on compare les récits qui sont faits par des individus singuliers, lorsqu'ils prennent des amphétamines, vous avez des centaines de ces récits, et à chaque fois, ce qui ressort, c'est le sentiment de bien-être et d'euphorie qu'éprouve l'utilisateur. Donc, si vous vous en tenez à ces récits individuels, on a l'impression qu'un monde dans lequel tout le monde aurait accès aux amphétamines serait un monde idyllique. Et on voit par cette expérience improvisée à San Francisco qu'en réalité, L'effet social de la molécule est tout à fait différent. L'effet politique et social ne peut pas être déduit de l'effet individuel. Il y a un passage à l'état social, si on peut appeler ça comme ça, qui ajoute quelque chose au tableau clinique initialement repéré chez un individu singulier. Alors, je vais dire un mot d'un pays qui a joué un rôle très important dans cette interdiction, c'est la Suède. En fait, j'ai parlé de ce qui se passait dans le quartier Eitashbury à San Francisco, mais ce qui a réellement compté pour amener les États à opter pour une convention interdisant les psychotropes, c'est la position de la Suède et la position plus particulièrement d'un individu qui s'appelle Nils Bejerot. Nils Bejerot est un médecin qui travaille au centre de garde à vue de Stockholm. Et là, il voit passer donc les détenus, ceux qui ont commis des vols, parfois des crimes, des agressions, etc. Et il va établir une corrélation entre toxicomanie et criminalité. Une corrélation qui est assez fantaisiste, en fait, lorsqu'on la regarde dans le détail. Il établit, par exemple, une équation que vous voyez inscrite à la dernière ligne. La contagion, il parle ici de la contagion dans l'usage du produit, est proportionnelle à la sensibilité au produit et à l'exposition. Donc il tire cette équation, C égale S multiplié par E. Et il déduit quoi de cette équation? Eh bien, il déduit que puisqu'on ne peut pas amener le terme S, la sensibilité, à zéro, le seul moyen de résoudre le problème de la contagion, ce qu'il appelle la contagion, c'est d'annuler E, c'est d'annuler l'exposition. Autrement dit, d'interdire radicalement toute drogue. C'est la naissance de ce qu'il appellera par la suite le concept de société sans drogue, société dans laquelle aucune drogue n'est consommée. Et ce qu'il tire encore de son équation, c'est que la politique des drogues, la politique que les États doivent, selon lui, adopter pour lutter contre la drogue, c'est de stigmatiser sans état d'âme le consommateur. Stigmatiser sans état d'âme le consommateur, le mettre en prison, lui faire nettoyer la forêt, voilà le genre de choses qu'il préconise. Et lorsque la première loi réprimant la consommation de psychotropes est prise en Suède, eh bien, il juge, lui, qu'elle est beaucoup trop laxiste. Pourquoi ? Parce que cette loi ne punit pas l'usage. Il dit le seul moyen, toujours en référence à son équation, le seul moyen d'éradiquer la drogue, ce n'est pas de punir le trafic, d'essayer d'empêcher ou de tarir le trafic, c'est de punir les consommateurs. Alors, le premier succès de Bejerot est d'entraîner dans son propre pays, donc en Suède, un durcissement de la législation. Son second succès, ce sera d'amener la position de la Suède, enfin, par son représentant, dans le comité qui s'occupe des questions de drogue à l'ONU, de changer de position. La Suède, qui jusqu'ici était plutôt favorable aux psychotropes, c'est-à-dire au fait de distinguer les psychotropes des stupéfiants, va désormais plaider en faveur d'une criminalisation aussi des amphétamines et des amphétamines et des autres psychotropes de synthèse. Alors, on pourrait penser qu'à partir de 1971, l'histoire des amphétamines s'arrête. Ça n'est pas le cas. Pour une première raison, c'est que les synthèses sont assez faciles à réaliser. Et c'est si facile à réaliser qu'en fait, on peut faire ça même dans un garage ou même dans un coffre de voiture. Et non seulement c'est facile à réaliser, mais en plus, on fournit le mode d'emploi sous forme de publication dont le titre est tout à fait explicite. Vous avez ici l'exemple de l'une d'entre elles qui est accessible, hein, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui tout à fait accessible, et vous avez ça sur Amazon par exemple, vous pouvez le commander. Et ce qui est étonnant, c'est que dans un pays, les États-Unis, qui a adopté maintenant une politique très répressive à l'égard des drogues, vous avez ce genre de manuels qui sont accessibles au grand public. Alors, évidemment, c'est une contradiction apparente. La contradiction se résout par, si on fait intervenir, le contenu du premier amendement de la Constitution américaine qui empêche toute opposition à l'expression d'opinion. Donc ici, c'est considéré comme une opinion. Et donc, bien sûr, c'est utilisé ensuite pour réaliser des synthèses. Alors, je vais aller un petit peu plus vite que je n'avais prévu, je vais aller vers la fin de mon exposé. Peter Conrad a parlé au sujet de l'usage. Alors, je viens de parler des synthèses clandestines, mais il y a aussi, bien sûr, et ça vous concerne peut-être plus directement, l'apparition de la ritaline, qui est un dérivé d'amphétamine. Cette ritaline va amener une discussion sur la médicalisation de la société, et l'auteur qui a le plus directement discuté de ces questions est certainement Peter Conrad, mais vous avez aussi en France, bien sûr, Michel Foucault. Et puis, je voulais donc terminer en évoquant l'augmentation possible des capacités humaines. Bien sûr, les amphétamines sont un exemple de ce qu'on peut augmenter dans l'homme, et elles montrent qu'il est possible d'augmenter des performances humaines. Mais ce dont on s'aperçoit aussi très vite, c'est que l'homme est quand même une machine très compliquée, et que lorsqu'on l'augmente, on crée un certain nombre de modifications qu'on ne maîtrise pas vraiment. Alors, ceux qui prônent l'utilisation sans aucune limite des possibilités d'augmenter l'homme, qu'on appelle aujourd'hui les transhumanistes, s'appuient bien souvent sur Nietzsche et sur l'idée de surhomme, le concept de surhomme qu'on trouve chez Nietzsche. Je voudrais signaler qu'il y a quand même une ambiguïté de la notion dans la façon dont elle est utilisée. Il ne s'agit pas chez Nietzsche d'augmenter la puissance, comme les transhumanistes semblent le penser souvent, mais de dépasser une morale qui limiterait l'homme à un certain moment de son évolution. Donc, le sens qu'il donne à cette référence à Nietzsche est peut-être à examiner en détail. Voilà. Merci de votre attention.